VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h à Abidjan, Ouagadougou et en temps universel, 20h à Kinshasa, 15h ici à Washington. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct, bienvenue dans notre bulletin d'information. Au Burkina Faso, au moins 12 personnes, 10 supplétifs de l'armée et 2 civils ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Hier matin, un convoi de vivres escorté par des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, a été la cible d'une embuscade sur l'axe Dori-Gorgadji. C'est ce qu'ont déclaré une des sources locales. Vendredi, 3 autres VDP sont morts lors d'une autre attaque à Red Kulga dans la province du Namantenga. Toujours dans le nord du pays, les VDP, supplétifs civils de l'armée peu formée et mal armée, paient un lourd tribut à la lutte anti-djihadiste au Burkina Faso. Hommage en Côte d'Ivoire après le décès hier d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale à l'âge de 68 ans. Le président Alassane Ouattara fait part de sa profonde douleur dans un communiqué et a salué son engagement et son parcours politique. Amadou Soumaoro était une figure de la politique ivoirienne et un fidèle du président Ouattara. Il est l'un des membres fondateurs du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti historique de M. Ouattara, lancé en 1994. Au Nigeria, au moins 48 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des hommes armés contre 3 villages de l'état de Zamfara dans le nord-ouest du pays vendredi après-midi. Le bilan a été confirmé par Aminu Souleymane, le responsable administratif du district de Bakoura. Des centaines de Tunisiens ont manifesté ce dimanche dans le centre de la capitale en soutien au président Kais Saied et aux mesures qu'il prône pour redresser le pays. Les manifestants, rassemblés sur l'emblématique avenue Bourguiba à Tunis, à l'appel d'un collectif pro-Saied, ont déployé des calicots avec l'inscription « Nous sommes tous Kais Saied » et scandé des slogans appelant au jugement des politiciens corrompus que le chef de l'État vilipende sans cesse. Les opposants au président Saied dénoncent une dérive autoritaire. 44 migrants sont morts noyés après le naufrage de leur embarcation ce dimanche au large du Sahara occidental au sud du Maroc. C'est ce qu'a indiqué l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Aucune confirmation de ce naufrage meurtrier n'a pu être obtenue dans l'immédiat auprès des autorités marocaines.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le reste de l'actualité dans le monde, toujours en bref. En Ukraine, des dizaines de personnes sont portées disparues à la suite d'un bombardement hier d'une école où elles se réfugiaient dans la région de Lugansk, dans l'est où se concentre l'offensive russe. À la veille des célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie, le président russe Vladimir Poutine a promis dimanche à ses militaires la victoire finale, comme en 1945, multipliant les comparaisons avec la Deuxième Guerre mondiale. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu dans la ville d'Irpine où l'Ukraine accuse la Russie d'un massacre de civils. Le président russe Vladimir Poutine est responsable de ces odieux crimes de guerre. Il devra rendre des comptes, a déclaré M. Trudeau lors d'une conférence de presse commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, les militaires ukrainiens retranchés depuis de nombreuses semaines dans les galeries souterraines de l'immense aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance face à l'armée russe dans le port dévasté de Mariupol, ont annoncé aujourd'hui qu'ils excluaient de se rendre. À Cuba, le bilan d'une explosion accidentelle dans un hôtel de luxe du centre de la Havane est passé à 30 morts, ont indiqué les autorités, alors que les pompiers continuent de fouiller les décombres. 24 personnes sont hospitalisées après la puissante explosion de vendredi qui aurait été causée par une fuite de gaz. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. C'était Claire Morin-Gibourg. Je vous retrouve dans une petite heure pour faire un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue à tous dans le dialogue des religions. Eric Manelakidza avec vous ce soir. La mise en onde assurée par Michel Joseph. Les musulmans ont célébré lundi la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan, mois de jeûne sacré, de purification et de prière pour les musulmans qui commémore la volonté du prophète Ibrahim à sacrifier son fils comme l'avait ordonné Dieu. L'Aïd est traditionnellement l'occasion de repas de fête en famille, de visites rendues à ses proches et d'échanges de cadeaux. Les célébrations et leurs préparatifs souffrent cette année de la crise de la flambée des prix. Comment avez-vous célébré chez vous? Quel est l'impact de l'Aïd el-Fitr sur votre foi en Dieu? Nous en parlons dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous suivez sur le continent africain, sur VOA Afrique. Vous êtes dans le dialogue des religions. Le président américain Joe Biden a appelé à la tolérance religieuse lors d'une réception organisée lundi pour célébrer l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois sacré musulman du Ramadan. Les précisions de Lionel Lunanira Gahima.
M. Biden a salué les contributions des Américains musulmans, déclarant, je cite, « Les musulmans rendent notre nation plus forte chaque jour, même s'ils sont toujours confrontés à des véritables défis et menaces dans notre société, notamment la violence ciblée et l'islamophobie. »
Alors, aujourd'hui, nous nous souvenons aussi de tous ceux qui ne peuvent pas célébrer ce jour saint, y compris les musulmans et, excusez-moi, et y compris les Ouïghours et les Rohingyas et tous ceux qui sont confrontés à la famine, à la violence, aux conflits et aux maladies. Nous honorons les signes d'espoir et de progrès vers le monde que nous voulons voir, y compris un cessez-le-feu qui a permis aux gens au Yémen d'honorer le Ramadan et de célébrer l'Aïd en paix pour la première fois en 6 ans. Dans le même temps, nous devons reconnaître qu'il reste énormément de travail à faire à l'étranger et chez nous. Les musulmans rendent notre nation plus forte chaque jour, même s'ils doivent encore faire face à de véritables défis et menaces dans notre société, notamment la violence ciblée et l'islamophobie qui existe, je veux dire, c'est tout simplement stupéfiant.
Monsieur Biden, qui est catholique, a déclaré aux participants à l'événement qui s'est déroulé dans la salle est de la Maison Blanche, il y a beaucoup de similitudes entre les trois grandes religions. Les musulmans célèbrent la fête de 3 jours de l'Aïd al-Fitr à la fin du Ramadan, un mois sacré au cours duquel les musulmans s'engagent généralement dans des jeûnes d'une journée.
Merci Lionel pour ce reportage qui décrit la fête du Ramadan organisée à la Maison Blanche. Je suis avec Kadiatou Traoré. Kadiatou, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Vous êtes ici aux États-Unis. Vous avez été invité vous aussi?
Non, je n'ai pas été invité, mais j'ai suivi l'événement et c'est de tradition ici aux États-Unis. Chaque année, pendant la célébration de la fête du Ramadan, que les musulmans appellent l'Aïd el-Fitr, le président des États-Unis invite les musulmans à la Maison Blanche et il fait le repas, il partage le repas de Ramadan avec eux. Et chaque année, c'est de tradition et ça n'a pas commencé avec le président Joe Biden. Et tous les présidents qui sont passés, qui l'ont précédé, l'ont fait. Et comme ici, tu sais que les États-Unis, c'est un pays laïque où les religions, on est libre de pratiquer toutes les religions du monde. Les citoyens, c'est un droit de la nationalité et c'est un droit aussi. Et ça, c'est dit dans la Constitution américaine que c'est libre de pratiquer la religion que l'on veut sur le territoire des États-Unis.
Kadiatou, comment vous avez célébré cette fête?
Nous l'avons célébré, Eric, en famille. et avec des amis que nous invitons, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient d'une autre confession religieuse, et pour partager le repas de midi avec. Et de tradition, le matin à 9h, nous partons à la mosquée pour aller prier et puis remercier le bon Dieu, parce que nous fermons aussi un mois de jeûne, un mois d'abstention de toutes les choses, que ce soit la nourriture, que ce soit d'autres choses. On doit s'abstenir, le musulman doit conserver le mois de carême pendant les 30 jours. Toute la journée, on ne doit pas boire, on ne doit pas manger, jusqu'à la fin, jusqu'au coucher du soleil. Et aussi, tu dois aussi faire attention à tout ce que tu dis dans ton comportement et dans tout. Et donc, nous remercions Dieu qui nous a permis aussi de finir ces 30 jours de jeûne le bonheur. Il nous a permis aussi il nous a montré ce jour du Ramadan. Nous nous remercions pour ça. Et puis après, on vient, nous préparons des mets que nous partageons avec des amis, en famille.
Vous êtes malienne, vous habitez ici. Est-ce que la manière de célébrer ici, c'est différent de ce que vous faites au Mali?
Et Eric, il y a une nuance, parce que le Mali étant un pays à plus de 90% de musulmans, vous savez, quand il y a une fête comme ça pour les musulmans, et c'est comme dans les pays chrétiens, quand vous célébrez Noël ou la Pâque, tout le pays célèbre en même temps. Et il y a la fièvre de la célébration, et tout le monde court de gauche à droite, les femmes sont vraiment occupées la veille, deux jours avant la fête, d'aller au marché, on en parle, et puis on doit s'habiller, on doit porter des habits neufs, et tout ça. Et ici, et comme on est un peu, la communauté elle est un peu restreinte, et on est obligé de se limiter. C'est ce qui fait la différence un peu entre la célébration au pays et ici. Et sinon, nous, on ne le sent pas autant que ça. Et maintenant que nous avons le téléphone, on reste connectés avec les parents, la famille au pays. On appelle sur WhatsApp, nous appelons et puis on se présente des vœux. On n'est pas autant dépaysé que ça. On s'organise comme on le peut et pour fêter le Ramadan ici.
Kadiatou Traoré, j'ai oublié de vous dire Eid Mubarak. J'espère que ce n'est pas trop tard.
Non, pas du tout. Nous continuons, la célébration continue pendant tout ce mois-là. Merci Eric. Merci Mubarak à toi aussi. C'est des vœux de bonheur, des souhaits de bonheur que je te renvoie aussi à toi et à ta famille. Merci beaucoup, Eric.
Merci beaucoup, Kadiatou, pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
Merci. Je souhaite un Eid Mubarak à tous les auditeurs du dialogue des religions. Je suis une habituée parce que je suis la collègue de Eric, mais ça fait plus de deux ans à peu près que à cause de la pandémie de la COVID, qu'on travaille dans des conditions assez particulières, et ce qui fait que, je ne participe pas autant dans les émissions de dialogue de religion, La Voix de l'Amérique. Et bonne fête à tous, et puis merci beaucoup aussi à tous les auditeurs. Merci.
Merci, Kadi. Merci, Kadi.
Vous suivez toujours le dialogue des religions sur VOA Afrique. Nous sommes en ligne avec Dame Babou qui se trouve à Dakar. Babou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez célébré le Ramadan. Dites-nous comment ça s'est passé.
Oui, c'est vrai que cette année, il y avait beaucoup de craintes en termes de produits sur le marché, le panier de la ménagère, parce que simplement, c'est vrai que c'est des grandes périodes de dépenses pour les familles, et on craignait qu'il y aurait des ruptures en termes de produits. Heureusement, cela ne s'est pas passé. Par contre, l'inflation a été ressentie par pratiquement toutes les familles, parce qu'avec ce qui se passe, la guerre en Ukraine, donc les problèmes de blé, le Sénégal, je crois, après la France, fait partie des pays qui consomment le plus du pain et du pain fait à partir du blé. Donc vous pouvez comprendre qu'il y avait un problème sérieux. Et il y a aussi toujours une grande importation du riz et il y a aussi les problèmes d'essence et de kérosène. Le gouvernement est obligé de faire beaucoup de subventions, de renoncer à la taxe qu'on appelle la TVA ici et de renoncer à d'autres formes de taxation. Donc cela s'est passé relativement bien. Mais malgré tout, c'était vraiment un poids énorme pour les chefs de famille, ça c'est clair.
Donc, cette fête a pris une autre dimension qu'une dimension religieuse.
Absolument, il y a ça, mais surtout, c'est, si vous voulez, un renforcement du poids des religieux dans le champ politique de manière générale. Parce que il y a peut-être 20 ans, 30 ans, au Sénégal, c'était plutôt des chefs religieux, des grandes familles. Mais maintenant, il y a une grande influence avec les réseaux sociaux de ce qu'on appelle les prédicateurs, ce qu'on appelle les oustas ici, mais également au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est un phénomène qui est particulièrement frappé. Donc, tous les sermons des hommes avaient des questions politiques. Pratiquement tous les sermons, il n'y en a pas un homme qui n'a pas évoqué les questions politiques de l'heure. Ça, c'est un phénomène qui se renforce de plus en plus au Sénégal. Mais l'aspect positif aussi, du côté de la fête, précédée presque avec la fin des chrétiens au Sénégal. Et ici, on a ce qu'on appelle, en allemand, qu'on a Talach, que les chrétiens distribuent aux familles musulmanes durant la fin de leur carême. Et de la même manière, c'est un aspect qui n'est pas arrivé depuis longtemps.
Même le président Macky Sall a glissé un mot pour calmer peut-être les Sénégalais et les rassurer.
Oui, pour les rassurer en ce qui concerne peut-être les ruptures de stock qu'on craignait, en particulier pour ce qui est du carburant, pour ce qui est de kérosène et des produits alimentaires. Effectivement, le président a été obligé de rassurer les Sénégalais, mais toujours est-il que on n'est absolument pas sûr ce qui va se passer avec cette guerre. Ça, c'est clair. D'ailleurs, cette fête a coïncidé avec la visite du secrétaire général des Nations Unies. Et l'un des sujets les plus brûlants abordés avec ce dernier par le président Macky Sall, c'est justement ce problème de rupture de stock, ce problème d'augmentation des prix, de l'inflation à cause de la guerre en Ukraine.
Pourquoi, selon vous, il a profité de cette fête du Ramadan pour parler de tout cela? C'était pour s'assurer d'être entendu par un grand public?
Oui, le président de la République était absolument assuré que ses déclarations seront reprises pratiquement par tous les organes de presse, que ce soit la presse écrite, la radio et la télévision, et surtout pour les réseaux sociaux et les sites Internet qui jouent un rôle important maintenant dans le domaine de la communication. Donc, la fin de ce mois de Ramadan, cette fête qui est l'une des plus grandes fêtes du pays. Et ensuite, ça a coïncidé avec la fête du travail le 1er mai. Il a été même obligé de recevoir les syndicats le 3 au lieu du 1er mai. À cause de cette fête-là, tout compte fait donc un moment de grande communication. Et comme les imams avaient pratiquement tous évoqué cet aspect des réseaux sociaux qui empoisonnent la vie de beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, et on ne peut pas renoncer à leur utilisation, mais comment, on n'en est pas toujours sûr, mais le président savait que c'était un moment de grande écoute.
Quel est l'impact de cette fête sur la foi des musulmans?
Ah, c'est extrêmement important parce que, d'abord, n'oublions pas que c'est pendant 30 jours qu'on se prive de la journée, de boire et de d'autres difficultés occasionnées par l'observation de ce Ramadan. Donc, depuis toujours, ça a été une grande fête à côté de la Tabaski, qui est la fête du mouton, comme on l'appelle. C'est pratiquement la plus grande fête religieuse après la Tabaski, sinon même avant la Tabaski. Donc, c'était extrêmement important. Et c'est, comme je vous l'ai dit, de plus en plus, moi, ce que je remarque au niveau du pays, la foi religieuse il joue un rôle de plus en plus important, pas seulement au niveau de la vie privée des Sénégalais, mais même dans le domaine public. Et l'intervention des chefs religieux le montre à suffisance. Et les mosquées étaient archi bondées, si vous voulez. Donc, je pense que c'était un grand moment pour le musulman sénégalais. Il observe déjà cette fête-là. Et donc, c'était vraiment important sur le plan religieux.
Dame Babou, merci beaucoup pour votre contribution dans le dialogue des religions.
Merci beaucoup.
C'est toujours le dialogue des religions. À Tunis, je suis en ligne avec
Frida Darmani. Bonsoir Frida.
Bonsoir.
Eid Moubarak, comme on dit.
Merci, merci. Je m'arrive, comme on dit, que ce soit à la terre entière, à toute l'humanité.
Voilà. Comment avez-vous célébré le Ramadan chez vous?
Le Ramadan a été sur le rythme habituel. Hein. C'est un mois de recueillement. C'est un mois où on se retrouve beaucoup en famille, puisque la rupture de jeûne se fait toujours entre familles ou du moins avec des proches. Et c'est suivi durant la soirée de certains rituels religieux à la mosquée pour les hommes. Et pour finir avec la 27e nuit de Ramadan, qui est la nuit du destin, où on dit que toutes les portes sont ouvertes à tous les vœux et à toutes les et à tous les souhaits. Donc c'est sur ça que je veux rester, parce que ce mois de Ramadan cette année a été très difficile. Au début, parce qu'il y a eu des pénuries alimentaires, et notamment de la farine, de pâtes, etc. À cause d'une dérégulation du marché, mais aussi de l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc par rapport à la fourniture de blé et à toute cette régulation, parce que nous sommes dépendants de la farine ukrainienne. Donc voilà, on était dans ce cadre-là. Puis après, les choses se sont plus ou moins arrangées. Je pense qu'on a trouvé d'autres fournisseurs, etc. Et c'est vrai aussi que les producteurs tunisiens ont beaucoup vendu en Libye. Donc voilà, ça a fait. On a eu une période de flottement. Mais surtout, Ramadan a été impacté par la deuxième quinzaine, par le fait politique, par le fait que le président de la République ait remplacé l'institution indépendante des élections par une institution où lui nomme les dirigeants de l'instance qui va donc gérer les élections qu'on devrait avoir. On devrait avoir un référendum le 25 juillet et des élections le 17 juillet, le 17 décembre. Donc ça c'est très très important, et du coup nous avons le président qui est juge des partis, et nous n'avons plus aucun organe de contrôle qui puisse être intermédiaire dans tout ça.
Quel était le message transmis aux fidèles à travers les sermons dans les mosquées?
C'était des messages de paix, des messages de où il fallait qu'on apprenne à supporter, qu'après les épreuves, il y a toujours une récompense, que les épreuves ne sont pas pour rien, c'est-à-dire que ce soit un test auquel nous soumet le bon Dieu, soit un obstacle à franchir, mais que toujours après, il y avait quelque chose de positif pour nous. C'est-à-dire, voilà, on essayait de nous transmettre plutôt un message d'espoir et de tenir bon et de se dire que même si c'est difficile, on va s'en sortir. Mais bon, ceci dit, ce sont des paroles qu'on connaît, les sourates, on les connaît, tout ça, on connaît le côté aussi apaisant et pacifique de la religion musulmane qui devient très très fort durant Ramadan. Ici, nous pratiquons vraiment un Ramadan sans aucune sur le son du religieux, il n'y a aucun appel ni au djihad, rien du tout. Non, on est toujours dans la paix et dans le recueillement. Et d'ailleurs, on estime que même des choses anodines, hein, comme je ne sais pas, mentir ou insulter quelqu'un durant la journée, c'est un péché parce que c'est Ramadan. Donc c'est pour dire que voilà, on fait très très attention à tout ça. C'est dans cette atmosphère que s'est déroulé ce Ramadan.
Rien sur la crise politique actuelle?
Non. Dans les mosquées, la politique est absolument interdite. C'est pour éviter justement à des partis comme le Parti islamiste ou d'autres d'interférer dans le champ du religieux. Parce que justement, on a souffert de ça durant les années où il y a eu, en 2012, 2013 et 2014, où il y a eu l'émergence du terrorisme, tout simplement parce que les salafistes avaient des discours de prêche et les jeunes étaient enrôlés à travers les mosquées et les prêcheurs des mosquées. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une loi qui jusqu'à présent interdit donc que les prêches aient un côté politique.
Frida Darmani, merci beaucoup pour votre contribution.
Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Au revoir. La fête de l'Aïd El Fitr offre l'occasion de pratiquer la tolérance et de cultiver la paix. C'est le cas ici aux États-Unis. Le Conseil des relations américano-islamiques a signalé qu'il y a de plus en plus d'incidents reliés à la phobie de l'islam, donc d'islamophobie.
Et une recrudescence des crimes haineux contre les musulmans aux États-Unis l'année dernière. Le Conseil recommande de réunir les communautés minoritaires pour tenter de désamorcer les tensions. L'un de ces efforts est lié aux célébrations marquant la fin du mois musulman du Ramadan. Saqib Ouy Islam de VOA s'est rendu en Virginie dans une communauté sikh. Son reportage et le récit est signé Michel Joseph.
Sona Aga, 9 ans, la soirée est placée sous le signe du shopping.
The nice dress, the henna,
la belle robe, couleur du henné, les bijoux. Pour les musulmans Shahan Berat, la veille de l'Aïd el-Fitr est un moment de fête où famille et amis se réunissent à la fin du Ramadan pour apercevoir la nouvelle lune qui annonce l'arrivée du mois islamique de Shawwal et le jour de l'Aïd. Mais ce soir, c'est un autre genre de célébration. Aga Kazalbash, de la communauté musulmane.
C'est un événement très spécial. Vous savez pourquoi ? Parce que la communauté sikh s'est organisée.
Et avec un message plus large pour remercier les musulmans pakistanais de la tolérance dont font preuve les sikhs au Pakistan. Kuldeep Gill, organisateur de la fête.
Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, la plupart de mes amis sont des musulmans pakistanais. Ils sont comme mes frères. Nous avons l'impression d'être pareils. Et la raison de cet événement est que, depuis tant d'années, vous, les Pakistanais, prenez soin des gurdwaras là-bas et avec un tel respect.
Le corridor de Kartarpur est un passage frontalier sans visa et un corridor religieux entre l'Inde et le Pakistan, reliant un temple sikh de Kartarpur, Sahib, au Pakistan, au Gurudwara Dera Baba Nanak en Inde, ouvert en 2019. Des membres de nombreuses communautés religieuses différentes ont également participé à l'événement. Manju Mathur, de la communauté hindoue.
Je pense que tout devrait être au-dessus de la religion et que nous devrions être comme de vrais êtres humains profitant ensemble et vivant la vie dans sa complétude. Cela nous donne une plateforme commune pour rencontrer les gens, pour se connecter avec eux.
Selon Tanu Govind de la communauté hindoue, cela leur donne une plateforme commune pour rencontrer les gens en vue de faire connaissance avec eux. C'est la première fois que Kelly Goldberg de la communauté juive assiste à une célébration de fin de Ramadan.
Je pense que ces événements et toute opportunité d'aller expérimenter une culture différente pour comprendre ce dont il s'agit vraiment, que l'islam est une religion de paix, de le savoir, de le vivre, d'être dans une salle pleine de gens ici qui sont musulmans, entre autres, vous aurez cette expérience de première main. Il n'y a pas de substitut à cela.
Pour les musulmans, assister à une célébration religieuse organisée par des sikhs est l'occasion d'aborder subtilement l'islamophobie qui est en hausse en Amérique selon le Council on American Islamic Relations. Zulfikar Kazmi, participant musulman.
Les gens devraient voir comment nous pouvons gérer et aborder tous ces problèmes qui sont directement liés à l'islamophobie.
La solidarité interconfessionnelle s'est également manifestée lundi à la Maison-Blanche, où le président Joe Biden et la Première Dame ont marqué la fête de l'Aïd en s'engageant à renforcer et à maintenir la tradition de la liberté religieuse pour tous en Amérique.
Eid Mubarak! Eid Mubarak! Everyone in all over the world!
Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des religions focalisée sur la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan, mois de jeûne sacré, de purification et de prière pour les musulmans. Eric Manelakis a été été avec vous à la présentation. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et bonne suite des programmes sur VOA Afrique. À la prochaine.